8h30 minutes. Martin et Véronique, bonjour à vous deux.
Salut.
Bon matin.
Histoire qui a rebondi à Ottawa, meurtre brutal d'une femme à Québec qui aurait été commis la semaine dernière par un individu en semi-liberté, déjà reconnu coupable d'avoir tué sa conjointe en 2004. Le ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, qui a annoncé la tenue d'une enquête pour élucider les circonstances qui ont mené à cette affaire. D'abord, Véronique.
Ben, écoutez, j'aime pas donner des détails qui font du sensationnalisme, mais je pense que dans cette cause-là, ce qui, tu sais, faut se rappeler là que cet homme-là avait tué sa conjointe à coups de marteau et de couteau. Là, c'est pas un meurtre, en tout cas, c'est un meurtre assez sordide. Et là, il est condamné à la prison à perpétuité et demande une libération, une semi-libération conditionnelle. Et ce qui est troublant dans cette histoire-là, questionnant, mais vraiment troublant, c'est les conditions dans lesquelles on lui a permis cette semi-liberté-là. Donc, on lui a permis une semi-liberté pour qu'il puisse avoir des contacts sexuels avec des femmes. C'était vraiment écrit explicitement dans la requête. Et dans le fond, on lui permettait d'acheter des services sexuels de prostituées. On se souvient que c'est illégal au Canada. Donc, c'était pas seulement toléré, c'était encouragé dans les conditions. Et là, ben, on sait ce qui est arrivé par la suite. Il a tué la femme. Donc, c'est extrêmement questionnant comment ça s'est passé pour cet homme-là. Et là, on demande bien sûr une enquête. Là, on n'avait pas le choix. Mais il y a plusieurs faits qui sont soulevés là-dedans, notamment le processus là au niveau de la nomination des commissaires là pour les libérations conditionnelles.
Oui, il y a beaucoup de questions. Moi, la prochaine, entre autres, c'est à savoir combien d'individus sont remis en liberté avec l'identifiant de risque modéré après avoir été longtemps étiqueté à risque élevé. Et combien de ces individus ayant commis des gestes horribles ont de ces possibilité de semi-liberté de rencontrer également des travailleuses du sexe. À quelque part, la commission des libérations conditionnelles devrait être capable de l'identifier. Mais il y a toujours également cette remise en question dans notre belle grande société là, de dire qu'on peut pardonner, que tout le monde est récupérable, qu'on peut réintégrer des gens dans la société. À un moment donné, là, on va-tu se rendre à l'évidence qu'il y en a de ces maudits fêlés...
Avec qui il n'y a rien à faire.
Et qu'il n'y a rien à faire, et qui vont récidiver, qui vont jouer leur rôle là, durant quelques années pour avoir de l'air du bon gars, et qu'un coup sorti, la bête ressort, et c'est parti. Alors, c'est dans cet examen-là, j'espère qu'on va aller jusque-là.
Il a tué son ex à coup de marteau, là. Non, mais tu sais, à un moment donné, il faut ramener les affaires, là. C'est pas monsieur, madame, tout le monde, là.
Oui, puis de dire, ben si seulement il avait joué le bon gars, tu sais, Martin, je suis d'accord avec toi de ce questionnement-là, mais dans son cas, dans le dossier, il dit, bon, on a une stratégie de gestion de risque, mais le risque est important, voire même inquiétant. Ils ont vu ça, ils ont écrit ça, ils ont quand même permis qu'il entre en contact avec des travailleuses du sexe, et c'est arrivé à plusieurs reprises. Bon, la dernière a été fatale, mais je veux dire, je ne comprends pas, tu sais, de dire, à l'occasion, on pense qu'il est réhabilité, puis on va croire en... Mais c'est même pas ça. Puis on voit dans son dossier, et c'est bien écrit, que sa relation avec les femmes est troublée, et que le risque est important. Donc, pourquoi on permet qu'il soit en contact avec des êtres humains pour qui il a une haine profonde et à qui il peut porter atteinte? Moi,
je te pose la question, Véronique. Est-ce qu'on doit ramener le débat de la peine de mort? Parce que j'ai des gens qui m'écrivent actuellement, dont certains avocats, qui me disent qu'on devrait les zigouiller.
Ben, moi, je n'irais pas dans le débat de la peine de mort, mais dans le débat de c'est quoi une peine à perpétuité, puis c'est quoi des conditions de libération conditionnelle, tu sais. Puis dans ce dossier-là, je pense que ce qui a été soulevé aussi, c'est quand on parle, bon, les commissaires qui sont là, le processus de nomination qui a été mis en place par le gouvernement Trudeau est remis en question parce qu'on avait 16 commissaires, puis sur les 16 commissaires, il y en a 14 qui sont de nouveaux commissaires. Et avant, on prévoyait un genre de jumelage pour qu'un commissaire d'expérience alliance puisse accompagner un nouveau commissaire, ouais. surtout là, pour trancher dans le cas des sorts d'un meurtrier non, mais, condamné à perpétuité.
Au-delà de ça.
Le lendemain, c'est plus là. Là.
Oui, mais au-delà de ça, là, parce que là, si la commission va aller au fond du débat, là, moi, je reprends la ritournelle du Doc Mayou, de ces individus fêlés envers les femmes, ben on les coupe. Sans nécessairement y aller de la peine de mort, mais on coupe ce qu'ils ont...
Castration chimique
c'est
ou autre.
C'est ça.
Mais oui, tout à fait. Si on va dans un autre débat, la tribune ce matin, là, on a Rogers qui fait encore une demande pour une tour.
Oui, puis moi, la question que je soulève avec la publication ce matin d'un avis de la compagnie Rogers, puis les gens du secteur Saint-Élie savent très bien que les communications, pour ceux qui sont abonnés avec cette compagnie, ne sont pas faciles dans le secteur. Je le sais, je demeure dans ce secteur. Sauf que là où on veut s'installer, près du chemin Godin et du quartier résidentiel de la rue Saint-Jacques, pour situer les gens, là, c'est... tout près ou à côté, si on veut, là, du IW qui s'est installé quand même il y a quelques années à peine. Là. Et on est tout près de l'autoroute 10. Ce serait, tu sais, potentiellement, tu dis, OK, tu vas avoir une bonne couverture du secteur, mais c'est parce que c'est la réplique du processus qu'on a réalisé sur la rue Felton, alors qu'on était à proximité de résidences, de quartiers résidentiels. Et la compagnie avait entendu d'ailleurs le message des citoyens en disant qu'ils allaient explorer d'autres possibilités et qu'on a bien entendu les citoyens. Là, écoute, on est vraiment installé à côté des maisons. Il y a tellement de terrain, me semble, qu'on pourrait fouiller un peu à Saint-Élie là, ou dans le secteur 2 pour améliorer les services le long de l'autoroute et dans ce secteur de la ville de Sherbrooke.
C'est des endroits plus boisés, me semble.
Ah, même des beaux grands champs, on en a en masse. Mais dans ce secteur-là, je comprends pas. Je pense que Rogers aurait dû apprendre de Felton. Puis remarquez, là, moi, je demeure même pas dans ce quartier-là. Là. Je suis pas dans ce bout-là du tout, là. Mais je sais très bien que les citoyens du secteur vont réagir. Ce sera dans leur cour. On parle d'une tour de 148 pieds.
Véronique, oui,
oh, vas-y. Vas-y.
OK, mais ce qui est intéressant, là, c'est que, tu sais, on n'est pas dans une entreprise qui veut implanter quelque chose que les gens veulent pas. Donc, on veut vraiment améliorer le service. C'est quelque chose que les citoyens désirent. Et donc, comment on le fait? Ce qu'on a appris là au mois de décembre, parce qu'il y a eu déjà, ben dans le fond, une sortie là de Marc Deneau quand il voulait implanter six tours à Sherbrooke, six nouvelles tours. On a appris que la politique d'innovation, science de développement économique Canada, s'applique lorsqu'une ville n'a pas de processus distinct de consultation publique. Donc, comme on n'a pas de processus de consultation publique par rapport à la télécommunication, donc, les entreprises de télécommunication ont seulement à avertir le public et répondre à ses préoccupations pertinentes, et là, encore une fois, qui juge de la pertinence, avant d'implanter une tour. Donc là, on a vu, bon, il y a eu la rue Felton, les gens se sont mobilisés, ça a bien fonctionné, et la chef des affaires publiques a dit, ben oui, en se basant sur les commentaires de la communauté, on va essayer de trouver une nouvelle place. Mais qu'est-ce qu'on attend à Sherbrooke pour avoir un processus distinct de consultation publique sur les télécommunications? On voit, là, c'est quelque chose qui se reproduit en l'espace de 2 mois. Là, ça fait plusieurs fois que le débat est sur la table. Donc, si on met en place un processus de consultation, ben le choix géographique de ces tours-là va se faire en collaboration avec la population.
Mais
donc,
je ne veux pas péter ta bulle, Véronique, mais non, parce que le fédéral a préséance. La réglementation fédérale est au-dessus du monde municipal, malheureusement, dans ces fameuses télécoms. Et c'est là qu'on se doit de moderniser, d'ailleurs, cette façon de faire et cette loi là, sur les télécoms. Parce que c'est le fédéral, les télécoms demandent leur permis, ils pourraient s'installer là où ils veulent, sans nécessairement avoir l'approbation, mais il y a au moins quelques bonnes compagnies qui ont les oreilles ouvertes.
Une bonne nouvelle. Hey, peut-être en terminant, 30 secondes sur Guy Nantel, qui ne voudrait pas que ses activités professionnelles soient considérées comme une dépense. L'humoriste aimerait aussi que la participation des sympathisants au vote soit gratuite, alors que le PQ prévoit réclamer une somme de 5 $ pour obtenir le privilège de voter. Doit-on dérouler le tapis rouge pour Guy Nantel?
Oh, mais non, on ne doit pas dérouler le tapis rouge. Puis, tu sais, on voit dans ses demandes, dans sa façon d'intervenir, à quel point il ne connaît pas, il ne comprend pas le système politique. Et ça, moi, c'est, ben, je veux dire, ça fait plusieurs fois qu'on parle de ce type de candidature-là, puis à chaque fois, moi, ça me renverse un peu. La fonction politique est une fonction importante de notre société. Donnons-lui l'importance qu'elle a en la considérant, puis en acceptant qu'il faut une certaine expérience avant de se lancer là-dedans. Donc, je n'ai rien à rajouter.
Moi non plus.
Merci à vous, on se retrouve demain.
Bonne fin de journée. Salut.